Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani wa makaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiro.
Halud Mouni.
Chenibiri. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes en direct d'Alger, Alger où se tiennent actuellement les pourparlers. Les pourparlers qui viennent de connaître une nouvelle pause due à ce rapport remis aux différentes parties pour réfléchir sur les propositions de la médiation ici à Alger. Donc nous sommes dans ce studio mobile du studio Tamani à Alger, à l'hôtel El Ouraci, studio Tamani qui reçoit aujourd'hui comme invité Abala Ag Hamzata du mouvement d'autodéfense Gatia et également Moussa Ag Acharatoumane du MNLA, porte-parole du MNLA. Alors ce deuxième direct donc depuis Alger s'entame avec cette nouvelle pause pour permettre aux différentes parties, je l'ai dit dans ce c'est pour parler, de restituer ce que la médiation leur a proposé comme feuille de route ou bien même comme pré-accord. Dans ces pourparlers.
Studio Tamani.
Alors nous sommes avec Moussa Ag Acharatoumane, je l'ai dit, avec Moussa Abala Ag Hamzata également. Cette deux premières parties consacrées à cette nouvelle pause. Pourquoi donc cette nouvelle pause, Moussa Ag Acharatoumane, du MNLA?
Bonsoir à tous les auditeurs du studio Tamani. Premièrement, il y a cette pause parce que tout simplement, elle intervient juste après la synthèse que la communauté internationale a eu à faire des propositions qui ont été faites et par le gouvernement et par les mouvements politico-militaires de l'Arzouat. Et nous avons décidé de demander un temps pour pouvoir examiner de très près et en détail les contenus de ces documents. D'abord, à travers une première lecture, malheureusement, nous constatons en réalité que c'est un document qui reprend mot, pour ne pas dire comme tel, la proposition que le gouvernement malien nous avait déjà faite lors de la deuxième phase des négociations. Et nous ne retrouvons pas aussi, malheureusement, la plupart des propositions, des demandes, des revendications que la coordination des mouvements de l'Arzouad avait remis aux membres de la communauté internationale, notamment la demande fédéraliste et une certaine autogestion de ce territoire par les populations autochtones. Donc, raison pour laquelle nous avons demandé à ce qu'on nous donne un temps pour pouvoir consulter nos experts, pour consulter nos personnes ressources, afin de mieux rebondir et revenir avec des propositions un peu plus consistantes qui peuvent harmoniser les regards de la communauté internationale avec la proposition de la coordination des mouvements de l'Arzouad.
Alors, vous êtes du mouvement Gatia, Abala Ag Hamzata. Vous êtes présent ici à Alger avec une forte délégation également. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce document qui a été présenté aux différentes parties?
Merci pour la radio Tamani. Merci pour les auditeurs et les auditrices. Et moi, je pense que pour le document, c'est vrai, le document nous a été remis. C'est un document d'avant-projet qui a été présenté par la partie médiation et la communauté internationale. Donc, quand nous avons reçu le document, on nous a demandé de faire une première lecture et d'apporter nos observations. Donc, c'est vrai, dans le document, nous nous retrouvons dans une grande partie du document, nous de la plateforme, des mouvements de la plateforme. Mais on s'était dit quand même qu'il était très tôt vraiment de donner ses observations sur le document, puisque c'est un document qui fait au moins quand même qui fait au moins de 15 pages. Il fallait vraiment l'analyser pour apporter des très bonnes observations sur le document. Donc ceci étant dit, nous avons demandé à la partie de la médiation de nous donner un temps pour qu'on se concerte entre nous-mêmes, pour qu'on se voit entre nous-mêmes et qu'on fasse ses observations. Et que la prochaine fois, nous pouvons apporter un document aussi complet. C'est ce que nous avons demandé à la médiation.
Alors, est-ce que le MNLA se retrouve dans ce document?
J'ai déjà donné la réponse, je pense que je l'ai déjà donnée lors de ma première allocution. Nous ne nous retrouvons pas du tout, malheureusement, dans le contenu de ce document pour la simple et bonne raison que la plupart des propositions, des suggestions, des commentaires ou de la vision de la résolution de la crise à Azawado malienne, malheureusement, ne répond pas à notre regard la solution à cette crise-là. Nous pensons aujourd'hui que le Mali tel qu'il est, c'est-à-dire on ne doit plus maintenant remettre sur scène ou réactiver un certain vocabulaire qui parle de la restauration, comme on le dit, malheureusement, on ne restaure pas l'échec, on ne restaure pas quelque chose qui n'a pas marché. Aujourd'hui, il faut aller vers l'innovation, il faut aller vers la créativité, et il faut aussi essayer de répondre aux aspirations de certaines populations.
Alors, quels sont les points?
Oui, justement, j'en reviens. Aujourd'hui, je pense qu'au regard de la crise que le Mali traverse en général, et l'Azawad en particulier, on sait aujourd'hui que ces populations, une bonne partie de ces populations, aujourd'hui, revendiquent un droit à une certaine autodétermination, à une certaine autogestion. Aujourd'hui aussi, ces populations demandent c'est qu'on les reconnaisse une certaine entité, c'est-à-dire qu'on reconnaisse cette différence, cette spécificité-là qui existe entre l'Azawad et le Mali. On pense que déjà en franchissant ce pas-là, on va franchir un pas extrêmement important. Et puis d'un autre côté aussi, le Mali centralisé, un État jacobin comme la France l'a été, on pense qu'au vu et à la composition de ces populations-là, on pense que c'est un modèle aujourd'hui qui ne répond pas malheureusement aux préoccupations, aux aspirations des populations. Et d'un autre côté aussi, sur l'aspect sécuritaire, aujourd'hui l'Azawad est confronté à un fléau d'ordre mondial et international, c'est-à-dire les fléaux terroristes. Et pour combattre ce terrorisme-là, on sait tous en réalité que l'armée malienne ne fait pas les poids. Et tel qu'il existe aussi, tel qu'il est redéployé sur le territoire de l'Azawad, malheureusement, ces 15 et 10 dernières années, il a démontré toutes ses lacunes et toutes ses limites dans les cadres même de la lutte contre le terrorisme.
Est-ce que vous pensez qu'avec un appui du MNLA, les combattants du MNLA, si on les fusionne aujourd'hui à l'armée malienne, ces deux-là peuvent faire face à cette menace terroriste?
Nous, comme on l'a toujours dit, on pense que c'est pas une intégration qu'on cherche aujourd'hui. Nous, ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est une forme de gestion même de notre quotidien, c'est-à-dire nous sécuriser nos villes et nos populations. Et aujourd'hui, on pense qu'il faut réformer dans sa totalité, en profondeur, le système même sécuritaire sur cette zone-là. L'armée malienne n'est plus en mesure de faire face à ces menaces-là. Il y a des forces internationales qui sont là aussi, qui peinent malheureusement, vu leur composition. Il y a que deux forces aujourd'hui qui sont en train de lutter contre le terrorisme. C'est la force Barkhane qui cible certains convois de ces djihadistes-là et les troupes du MNLA qui souvent font du ratichage, font du renseignement ou souvent même attaquent certaines position de ce groupe terroriste-là. Et toute cette donne-là, aujourd'hui, doit être intégrée dans l'aspect sécuritaire. Mais une chose est importante, aujourd'hui, tant qu'on ne règle pas, c'est-à-dire l'aspect politique qui oppose l'Azawad au Mali, on pense qu'il sera difficilement envisageable d'avancer sur le point sécuritaire, développement et réconciliation. Parce que l'aspect politique est au cœur, c'est le centre même du problème qui oppose les mouvements politico-militaires de l'Azawad au gouvernement central malien.
Alors, Gatia, quelles sont vos revendications que vous retrouvez dans ce document de la médiation?
D'abord, moi, je tiens à féliciter d'abord le travail qui a été fait par l'équipe de la médiation par rapport au document. Des travaux étaient salutaires. Et ensuite, par rapport non seulement aux quatre thématiques, dans une très grande partie, dans une grande majorité du document, nous nous retrouvons, comme je l'ai dit au départ. Surtout sur les questions politico-institutionnelles, puisque nous, dans les documents même qu'on a soumis à la médiation, on a demandé une décentralisation plus large. Et ça, nous les retrouvons dans les documents. Nous avons dit qu'il fallait avoir un président du conseil régional élu au suffrage universel direct. Parce que vous voyez, avec un représentant de l'État qui a moins de pouvoir sur le développement, qui n'a qu'un pouvoir de légalité, qui n'a qu'un pouvoir qui se limite tout juste à la légalité et puis à l'appui conseil. Donc ça, c'est dans les documents. Ça, c'est les questions les plus importantes. Au niveau aussi des questions de défense et sécurité, je pense que ce que nous avons demandé aussi, une grande partie est dans le document. Est-ce que vous voyez? Donc déjà, là, nous avons déjà une très grande satisfaction. Nous n'avons pas les mêmes revendications que les gens de la coordination, c'est vrai. Et nous nous retrouvons dans une très grande majorité dans les documents. Mais certes, nous avons quelques observations que nous avons déjà suggérées à la médiation, que nous allons continuer aussi à travailler sur le document pour l'améliorer davantage. Puisqu'il y a des lacunes, il y a certaines lacunes, même au niveau de ce conseil régional, on a constaté que dans le document, ça n'a pas été très explicite. Et il fallait vraiment bien expliquer, bien rentrer dans les détails pour savoir les missions de tout un chacun. Est-ce que tu vois? Il fallait le faire, ça n'a pas été fait. Donc, il y a beaucoup de trucs qu'on devrait prendre en charge. Maintenant, on n'a pas tellement détaillé les documents pour rentrer dans le fond du document. Il faut d'abord attendre qu'on l'étudie en long et en large pour donner là où on s'oppose à la médiation et là où nous avons aussi été pris en charge.
Alors, Moussa Acharatoumane, aujourd'hui, quelles sont les directives, sinon les doléances que vous avez soumises à l'équipe ou bien les réserves que vous avez émises à l'équipe de médiation aujourd'hui pour que vos doléances, justement, que vous leur avez soumises soient prises en compte lors de la prochaine phase des pourparlers?
Tout d'abord, nous avons fait une comparaison, c'est-à-dire une comparaison entre les deux textes, entre celui de l'État fédéral que nous on avait présenté et celui de la régionalisation que la synthèse que la communauté internationale nous a présenté. Et malheureusement, on a tout de suite remarqué que la plupart des choses qui nous semblent importantes et essentielles, on les retrouve malheureusement pas dans ces documents. D'abord, sur les politico-institutionnels, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous revendiquons, c'est-à-dire une entité entière qu'on appelle l'ARZOAD, et nulle part dans ce document, non, on voit des réponses qu'on apporte à des spécificités, c'est-à-dire à des zones géographiques bien déterminées, par région ou par cercle. Alors que nous, on veut qu'on apporte des réponses à une entité, et si cette entité-là, une fois qu'on la reconnaît, une fois qu'on lui donne certains prérogatifs, c'est à elle maintenant de définir comment est-ce que, c'est-à-dire dans son intérieur, elle sera gouvernée, elle sera administrée, combien de régions vont exister, combien de cercles vont exister, quelle est l'interaction qui va exister entre ces communes, entre ces régions, entre ces cercles et tout ça. Donc c'est ça qu'on revendique et malheureusement ça, on le voit nulle part dans les documents. Et de l'autre côté aussi sur l'aspect sécuritaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, je reviens une fois de plus dessus. Dans les documents qu'on nous a présentés, en réalité, on ne voit absolument rien de nouveau. On voit un retour de l'armée malienne telle qu'il a toujours été. On voit un DDR comme il a été toujours proposé. On voit un cantonnement comme il a toujours été proposé. Mais ça, c'est des choses qu'on a essayé après l'accord de Ouagadougou. On a redéploié l'armée malienne sur le territoire de l'Azawad. Les résultats aujourd'hui, on les connaît. Dans l'accord de Ouagadougou, il était prévu qu'on fasse un cantonnement. Aujourd'hui, on sait où est-ce qu'on nous en sommes. Dans l'accord de Ouagadougou, il est prévu un DDR, mais aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Donc, les contextes réels sur le terrain, aujourd'hui, les gens doivent en tenir compte avant d'élaborer des textes, avant d'écrire des phrases, parce que c'est ce contexte réel sur le terrain qui va déterminer l'avenir politique, sécuritaire et économique de ces territoires-là. Et malheureusement, on voit dans ce document-là que la plupart de ces réalités qu'on est en train d'évoquer dans notre document, c'est-à-dire d'une entité fédérale, malheureusement, on ne les retrouve pas dans ce document-là.
Alors aujourd'hui, nous allons juste observer une pause avant de répondre à cette question. Que va-t-il se passer justement après cette nouvelle phase?
Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Alors, donc, comme je l'ai dit, nous sommes en direct ici à Alger, en direct d'Alger, Alger où se tiennent les pourparlers intermaliens ici à l'hôtel El Horaci de la capitale algérienne. Nous sommes dans ce studio mobile du Studio Tamani avec deux invités, un invité qui nous vient du MNLA, un autre du mouvement Gatia, le groupe d'autodéfense qui a existé. Durant dans l'intervalle de la première et la deuxième phase des pourparlers ici à Alger. Alors, la suite donc de ces pourparlers, que va-t-il se passer désormais après cette nouvelle pause à Bala Ag Hamzata du mouvement Gatia? Que doit-il se passer après?
Bon, je n'ai pas bien compris votre question.
Que doit-il se passer après cette nouvelle pause? Bon, quelle est la suite?
Je pense qu'après cette pause, La médiation a remis les documents aux trois parties. Elle a remis les documents aux membres de la coordination, elle a remis les documents aux membres de la plateforme et aux membres du gouvernement malien. Donc je pense que les gens ont un temps. Si je ne me trompe pas, normalement les gens ont au moins, au minimum un mois pour y réfléchir, pour vraiment regarder tous les documents de long en large pour faire leurs observations. Et maintenant, pour la prochaine étape, les gens vont présenter leurs observations sur le document, qui vont remettre à la médiation et que la médiation va étudier ça pour proposer un accord. C'est ce qu'ils ont dit ce matin.
Alors, on sait que avant de venir à Alger, il y a eu du grabuge sur le terrain. Le mouvement Gatia et le MNLA se sont affrontés dans certaines zones sous contrôle du MNLA. Aujourd'hui, est-ce qu'on va assister à cette même violence sur le terrain? Abala Gamzata.
Bon, écoutez, ça n'a jamais été notre vouloir en réalité de faire la guerre ni de s'accrocher. En fait, ce qui s'est passé sur le terrain est déplorable. On l'a toujours condamné, ce n'est pas de notre vouloir. On ne l'aime pas. En fait, voir des gens, des frères, tout ça s'entortiller, est-ce que tu vois? Personne n'a envie de ça. C'est quelque chose qu'on regrette. Mais en fait, ce qui s'est passé sur le terrain, chacun de nous le sait, ce qui s'est passé. Et on a maintes reprises dit, demandé à l'opération de l'aménagement, qui doit être témoin, à l'opération Berkane, à tout le monde vraiment, le comportement d'y amener là sur les terrains qui font qu'aujourd'hui, ça crée des problèmes, ça crée des tensions entre les groupes armés, entre les populations, tout ça. Donc, avant qu'il n'y ait cet accrochage d'Intidil et de Tessit, nous d'abord, avant que ça ne se passe, on a alerté l'aménagement pour dire à l'aménagement, voilà, on a quelqu'un, on a un responsable, dit Gatia, un responsable, un leader, est-ce qu'il voit, communautaire, qui a été agressé par les gens d'y amener là à Tessit, et qu'il fallait que l'aménagement intervienne pour que ces choses cessent sur le terrain. Et que là où le MNLA n'a pas de population, n'a pas de sympathisants, je ne vois pas pourquoi il y aurait l'existence d'un mouvement pour s'imposer sur les populations. Est-ce que oui? Donc on a demandé et puis à l'aménagement, à ce que les gens du MNLA respectent les cessez-le-feu du 24 à Kidal. Puisqu'en fait, il y a eu des zones qui ont été occupées par les gens du MNLA anarchiquement. Est-ce que oui? Y compris Intilil, y compris Tessit, y compris Djebok. Donc on a dit ça, c'est une occupation anarchique, c'est une violation du cessez-le-feu. On a informé aussi l'aménagement, on a informé la communauté internationale par rapport à ça, et qui n'a pas pris des mesures. Ça veut dire que ça, ils sont à la base de ce qui se passe actuellement.
D'accord. Alors, Moussa Aga Ashratouman, quelle est votre idée sur cette situation sur le terrain?
Situation très 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 complexe. Moi, je pense que au-delà même des affrontements, comme mon frère l'a si bien mentionné, qui sont déplorables, parce qu'il faudra quand même mettre en évidence le fait que c'est des gens souvent qui appartiennent presque à une seule cour, au-delà même d'une famille,
à une même famille.
Voilà, qui sont en train de se battre, au-delà même d'y amener là, au-delà même des sympathisants du gouvernement malien ou de l'armée malienne. Donc c'est des choses qu'on condamne, c'est des choses qu'on déplore, et on souhaiterait aussi que ces choses-là ne se reproduisent plus jamais, parce que les premiers perdants, au-delà même de l'État malien, je pense que c'est les peuples Touareg. Donc des parts et d'autres, les gens doivent prendre les responsabilités afin que les mésententes et les incompréhensions entre les communautés et les familles cessent. Ça, c'est de la responsabilité de nous tous. Moi, je pense que les dangers permanents et les dangers qu'on partage avec les restes du monde sur le terrain aujourd'hui, c'est pas ces problèmes d'Intililt ni de Tessit. Intililt et Tessit, c'est vraiment des tout petits postes. Des petits postes avancés, c'est vraiment pas quelque chose de très très important. Genre, je veux dire, ça n'a pas la même ampleur que le 17 mai et le 23 mai à Kidal. Ça n'a absolument rien à voir et c'est très très loin même d'être le cas. Et je tiens aussi à préciser que le MNLA a toujours respecté ses engagements. Et je tiens aussi à rappeler que le cessez-le-feu du 23 mai qu'on a signé sous les auspices de son Excellence Abdelaziz, le président de la Mauritanie, c'était un cessez-le-feu entre la coordination des mouvements de l'Arzoua qui est composé d'IMLA, d'IHEIA et d'IMAA avec le gouvernement du Mali et non avec des mouvements ou des organisations communautaire ou d'auto-défense. Il n'existe pas un cessez-le-feu entre nous et ces derniers-là. Maintenant, parler de la violation du cessez-le-feu, je pense que c'est quelque chose qui doit intervenir au moment où il y a des accrochages entre l'armée malienne et nous. Même si de l'autre côté aussi, on reconnaît et on met en évidence le fait, en réalité, que c'est l'armée malienne qui pousse certains gens justement à attaquer certaines positions ou certaines zones qui sont sous le contrôle du mouvement national de libération de l'Arzawad. Je tiens aussi à préciser que les MLA, c'est un mouvement, c'est-à-dire national, comme son nom l'indique, c'est un mouvement qui ne fait pas de traitement particulier pour une communauté contre une autre, ni de différence en termes de couleur de peau, ni quoi que ce soit, parce qu'au sein des MLA, aujourd'hui, Dieu merci, on retrouve l'ensemble des composantes de l'Arzawad, que ce soit des Soreilles, comme Djiré, que ce soit des Pels, que ce soit des Touaregs comme moi et d'autres, que ce soit des Arabes, on les retrouve tous au sein de cette organisation-là. Et les MLA, c'est un mouvement qui a un idéal, qui a un objectif, qui a un projet politique, je pense qu'il est reconnu même au-delà même des frontières du Mali aujourd'hui. Donc on ne doit pas en réalité douter de son idéologie, et il est là pour aider les populations, il est là pour lutter pour les droits des populations et il n'est pas là pour s'attaquer à des populations.
Alors, juste une parenthèse, ce que nous entendons, c'est plutôt des feux d'artifice, c'est loin d'être des coups de feu. Une information juste pour nos auditeurs qui nous suivent également sur nos 20 radios partenaires à travers tout le Mali. Alors, Abala Ag Hamzata, aujourd'hui, ces troubles se sont passés, c'est loin derrière nous, à vous voir dans ce studio. Je rappelle toujours, hein, les débats ici à Alger, c'est tout le contraire de ce qui se passe sur le terrain, car c'est l'atmosphère est bon enfant ici dans ce studio. Avant juste d'entamer cette émission, vous étiez en train de parler et c'était la courtoisie. Aucune animosité ici entre les différents mouvements et le gouvernement malien à Alger. On croirait même que la paix est déjà chose faite. Mais justement, pour que ces événements qui se sont passés sur le terrain ne puissent plus se reproduire, quelle assurance est-ce que vous donnez aujourd'hui à la fois au peuple malien à la communauté internationale pour rassurer tout le monde? Abala Gamzata Dugatia.
Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord préciser quelque chose qui vient d'être évoqué par mon frère Moussa Gachantman. Quand il parle, quand il dit que les MNLA est un mouvement qui regroupe toutes les composantes aujourd'hui du nord du Mali, moi je lui dis qu'il y a des communautés aussi qui ne sont pas à l'intérieur des MNLA et qui n'ont pas donné mandat aux MNLA de parler en leur nom.
Comme quelles communautés par exemple?
Il y en a pas gay, il y en a plein, il y a des communautés, il y a les Ibrahim, il y a les Shérifan, il y a des Geklan, il y a même les Soreilles, il y a les Arabes, il y a les Piles. Hein? Donc tout ce monde aujourd'hui n'a pas donné mandat au MNLA de parler en son nom. Donc il faut qu'on clarifie cette question. C'est vrai que le MNLA est un mouvement national de libération de l'Arzawad, mais il y a certaines communautés aussi qui n'ont pas donné mandat au MNLA. Est-ce que vous voyez, pour que les MNLA parlent en leur nom. Ça, c'est clair. Et les Gatia qui a été créé, ce n'est pas aussi un mouvement communautaire. C'est un mouvement d'ensemble des communautés. Ce n'est pas une seule communauté qui compose aujourd'hui les Gatia. Il y en a plein. C'est tout un ensemble de communautés. Est-ce que vous voyez? Donc, sur cet aspect...
L'assurance maintenant pour que les violences qui se sont produites ne se reproduisent plus.
Par rapport à ce qui s'est passé sur le terrain, je l'ai entendu aussi dire que leur objectif c'était de sécuriser la population. Moi je dis le contraire. Tous les problèmes que nous avons vécu au nord du Mali aujourd'hui, c'est de par les MNLA. Nos populations ont été traquées, nos populations ont été séquestrées, nos populations ont fait l'objet de toutes sortes de tracasseries. Par les mouvements MNLA.
L'assurance. Hein? Quelle assurance le Gatia donne aujourd'hui?
Par les MNLA. Ça a été fait à Galhok, ça a été fait à Nhalil, ça a été fait à Djebok, ça a été fait à Intilil, ça a été fait à Tissit. Et les responsables du MNLA n'ont pas pris la bonne décision par rapport à ça. Donc ça, c'est quelque chose aussi que je regrette.
Donc vous reprochez aux responsables du MNLA de ne pas être en bon terme ou bien en contact avec la base.
Avec leur base, pour vraiment sensibiliser leurs combattants, pour essayer vraiment de laisser les populations tranquilles, que les populations vaguent dans leurs affaires. Parce que c'est ce qu'on demande aujourd'hui à tous les responsables des mouvements, c'est-à-dire que les mouvements se donnent la main, que les mouvements aujourd'hui préservent les intérêts des populations au-delà des intérêts des mouvements.
Alors aujourd'hui,
par rapport à l'assurance, moi je pense que, comme je viens de le dire tout à l'heure, nous on n'a jamais voulu être dans les problèmes. On a toujours été parmi ceux qui ont voulu vraiment à ce qu'il y ait la paix, que les gens aujourd'hui soient tranquilles chez eux, qu'il n'y a pas de problème. Et je pense que si aujourd'hui les gens d'Yemenéla font aujourd'hui un peu plus de leurs possibilités pour essayer de retenir leurs hommes sur le terrain, pour ne pas essayer de tomber sur nos populations, tout ça là, ça n'allait pas, on n'allait pas être là aujourd'hui. On n'allait pas se trouver à ce stade.
D'accord. Parce donc ce point de vue...
Pour moi, il n'importe plus d'avoir une plus grande base ou une petite base, quelle que soit ailleurs, ou peut-être ce qui est important, c'est qu'on sente que les gens du MNLA sont là pour défendre les populations et non pas de les déranger, non pas de les détruire.
D'accord. Ce point de vue est compris. Moussa Aga Acharatoumane, vous venez d'entendre Abala Aga Hamzata du Gatia. Nous parlons toujours de cette possibilité qu'il y ait qu'il y ait la paix, qu'il y ait la stabilité dans le nord du Mali. Au même moment où les groupes terroristes attaquent les contingents de la MINUSMA, il y a les mouvements entre eux-mêmes qui s'entre-déchirent. Est-ce que vous avez une assurance au MNLA qui puisse faire en sorte que ce cessez-le-feu justement dont vous parliez avec qu'a obtenu le président mauritanien puisse être respecté à la lettre?
Bon, avant de répondre à votre question, j'aimerais quand même clore une petite parenthèse. Quand je disais que le MNLA est composé de l'ensemble des communautés de l'Arzawad, moi je ne parle pas au nom d'une tribu ni d'une fraction parce que mon idéal, mon objectif, mon combat se situe au-delà, c'est-à-dire d'une fraction, Imrad, Oussak, Chamramas, Ouifaras, tout ça, nous on se bat pour un peuple, on se bat pour un territoire, on se bat pour un mal-vivre d'une population, on ne fait aucune distinction entre ces gens-là. Et je pense que la composition du MNLA aujourd'hui, je n'ai même pas besoin de la présenter, tout le monde sait qu'on n'est pas tous de la même famille, qu'on est éparpillé de par l'Arzawad, on est de toutes les tribus, de toutes les couleurs, de toutes les tendances, de toute l'idéologie. Donc sur ce, je ferme cette parenthèse-là. Maintenant, quant aux garanties que nous on peut donner en tant que mouvement, je pense que nous on a toujours fait de notre mieux dans le cadre du respect des clauses qu'on a signées entre nous et le gouvernement malien en présence de la communauté internationale, notamment les cessez-le-feu qu'on a signé le 23 mai à Kidal. Je tiens même à préciser que avant même la signature de ce cessez-le-feu-là, nous déjà, en réalité, on avait mille fois manifesté le fait qu'on ne voulait pas avoir recours à la violence pour régler nos problèmes avec le gouvernement malien. Le MNLA en est un exemple très frappant. Il y a des preuves aussi de tout ce qu'on a entrepris comme acte politique et pacifique pour approcher le gouvernement malien afin qu'il y ait des discussions, c'est-à-dire politiques, qui s'engagent sans qu'on ait recours à cette violence-là. Mais malheureusement, de l'autre côté, le Mali a toujours utilisé les langages et les actes de la force pour réprimer la rébellion. Et les conséquences, on les a vues le 17, on les a vues le 21. C'est pas nous qui avons attaqué, c'est le contraire. Donc sur ce, moi je pense que les cessez-le-feu qu'on a signé le 23 mai à Kidal, jusqu'à preuve du contraire, nous tenons nos engagements, nous comptons à les respecter, mais il faudra, pour le respect de ces cessez-le-feu-là, il faudra que la volonté soit commune, soit partagée. De la même manière que les MNLA respectent les clauses de ces cessez-le-feu-là, il faudra aussi que l'armée malienne, le gouvernement malien en fasse de même et qu'il fasse de la retenue, qu'il fasse de la sensibilisation auprès de ses militaires afin d'arrêter les arrestations arbitraires, afin d'arrêter, c'est-à-dire de s'en prendre à certains responsables de ces mouvements. Et comme il est dit dans les cessez-le-feu, il y a la libre circulation des personnes et des biens. Cela doit être valable et pour le gouvernement malien et de notre côté. Moi, je pense que de notre côté, l'assurance qu'on peut donner aujourd'hui, c'est le fait que les clauses de ces cessez-le-feu-là, on y tient, on compte les respecter et on tiendra notre parole comme comme on l'a toujours fait. Mais si de l'autre côté la parole n'est pas tenue, si de l'autre côté la bonne volonté n'est pas manifestée, alors là, malheureusement, on est obligé de suivre la réalité qui se présentera à nous et nous défendre.
Alors, nous allons de ce pas-là donc passer à la troisième partie donc de ce débat. Vous suivez ce débat en direct d'Alger, sur les hauteurs d'Alger, ici à l'hôtel El Ourassi, où viennent de se tenir les pourparlers ici, le troisième round donc des pourparlers intermaliens, qui connaît en ce moment même une pause. Je rappelle que la délégation malienne est déjà rentrée, et selon ce que nous avons perçu de ce que cette délégation est venue accueillir ici dans le document de la médiation, il y avait une certaine satisfaction de cette délégation qui est rentrée à Bamako, et malheureusement l'invité qui devait émaner donc de cette délégation n'a malheureusement pas pu attendre l'heure de ce débat, où Moussa Alsek a été obligé de rentrer au même titre que les autres membres de la délégation du gouvernement du Mali. Donc nous sommes donc dans ce débat, le studio mobile de Studio Tamani ici à l'hôtel El Ourassi, sur les hauteurs d'Alger, et nous avons comme invité Abala Ag Hamzata du mouvement d'autodéfense Gatia, et Moussa Ag Acharatouman, porte-parole du MNLA. Nous sommes donc à la troisième partie qui répond à cette question: est-ce que la paix est à portée de main aujourd'hui, que ce soit à Alger ou bien au Mali, entre les différentes parties, la plateforme et la coordination, et également avec le gouvernement malien. Alors, Abala Ag Hamzata, est-ce que vous pensez, c'est vraiment difficile de faire la part des choses quand on vous voit, vous étiez là tout à l'heure en train de parler dans la courtoisie avec Moussa Ag Acharatouman, finalement on se demande qu'est-ce qui ne va pas, est-ce que la paix est possible aujourd'hui? Nous sommes confus. Hein. Bon. Est-ce que la paix est possible?
Pour moi, pourquoi la paix n'est pas possible? On doit être toujours optimiste. La paix est toujours possible. Et à un moment donné, il peut y avoir problème. À un moment donné aussi, il faut que les problèmes s'arrêtent et qu'il y ait la paix. Pour moi, aujourd'hui, je pense que nous sommes dans un processus. Il faut qu'on soit confiant, toutes les parties. Il faut que toutes les parties soient confiantes. Je pense qu'avec le temps, avec la persévérance, je pense qu'on arrivera un jour à la paix. Et cette paix aussi, bien entendue par les populations aujourd'hui. C'est les populations qui en ont surtout besoin. Ce n'est même pas les acteurs des mouvements, c'est les populations sur le terrain qui en ont besoin de cette paix. Si nous sommes souciés de cela, je pense que je ne vois pas pourquoi aujourd'hui il va y avoir un calage, un problème qui va empêcher la paix. Si vraiment nous sommes animés de cette volonté. Et le deuxième point, aujourd'hui, on n'a même plus le temps pour faire la paix. Pour moi, de mon point de vue, ce qui se passe aujourd'hui au nord du Mali nous amène, nous tous, aujourd'hui, que ce soit les groupes armés, que ce soit le gouvernement du Mali, à signer un accord et aller vers la concrétisation d'une paix durable et définitive. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le nord du Mali, aujourd'hui, est dans un problème aussi grave que celui que nous vivons aujourd'hui. C'est le problème terroriste, c'est un problème mondial. Est-ce que vous voyez? Et on ne peut pas y faire face. Ni les gens du nord du Mali, ni les gens d'ici, ni ceux de l'est, ni de l'ouest ne peuvent pas y faire face. Il faut la contribution de tout un chacun. Il faut que le Mali soit uni. Il faut que les pays voisins, il faut l'appui de la communauté internationale pour lutter contre ces fléaux. Et la preuve en est là, aujourd'hui. S'il y a un mouvement qui dit qu'il peut assurer la sécurité au nord du Mali ou deux ou trois, moi j'ai dit le contraire. Ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui, il le témoigne, il le confirme. Tous les jours, nous sommes en face des roquettes, tous les jours, nous sommes en face des véhicules qui sortent sur des mines, tous les jours, nous sommes en face de n'importe quoi. Donc ça nous interpelle, nous tous, à aller vraiment vers une paix durable et définitive. Il faut qu'on le fasse.
Alors, Moussa Ag Acharatouman, pensez-vous que la paix soit à portée de main aujourd'hui au Mali?
Moi, je pense que le chemin de la paix, on vient juste de le commencer, mais je pense qu'il est encore loin. Il est encore très périlleux, et je pense que les efforts des uns et des autres doivent être manifestes pour qu'on puisse parcourir ce chemin. Moi, j'aimerais tout simplement dire, comme les Russes le disent, qui veut la paix prépare la guerre, et qui veut la guerre aussi doit tôt ou tard préparer la paix. parce que les deux ne vont pas l'un sans l'autre. Et cette paix-là, quelque part, c'est une guerre en soi, parce que vu ce qui se passe, comme il l'a si bien souligné sur le terrain, vu les tensions qu'il y a et la montée chaque jour de ces groupes terroristes sur le terrain, en réalité, ne laisse pas beaucoup de choix aux uns et aux autres. Il faut faire la paix. Mais il ne faut pas faire une paix précipitée, il ne faut pas faire une paix bricolée, il ne faut pas faire une paix qui ne tient pas compte des profondeurs même de cette crise. Parce que trop longtemps, en réalité, on a toujours évité les fonds de cette crise-là. On n'a jamais voulu parler de l'aspect politique, on n'a jamais voulu parler de la revendication de ces populations. On n'a jamais voulu dire au monde et au peuple malien d'ici que les Azawadiens, ça fait 53 ans de cela aujourd'hui, qu'ils sont en train de revendiquer ce droit à s'autodéterminer, le fait d'avoir leur propre territoire. Je pense qu'au-delà même des mouvements qui existent en 2012, en 90, en 63, les Azawadiens ont commencé à s'exprimer au temps même colonial, parce qu'il y a une lettre très illustrateur qui a été envoyée en mai 1958 au général de Gaulle, mon frère qui est là en est témoin, qui a été signé par l'ensemble des notabilités de cette zone-là pour dire qu'ils ne veulent pas être rattachés à l'État du Mali, qu'ils veulent avoir leur propre État tel que la France est venue les trouver. Donc c'est cette revendication aujourd'hui indépendante, c'est pas quelque chose de nouveau, même si aujourd'hui les principes généraux que la communauté internationale nous impose, je dis bien nous impose, on les reconnaît, on va les respecter aussi, mais la réalité tôt ou tard ressurgira. Cette paix là il faut la chercher, il faut la construire, mais en la construisant sur des réalités, sur des faits, en la construisant sur des aspirations réelles et profondes qui sont là aujourd'hui. Tant que ces populations-là n'auront pas, c'est-à-dire les droits et la possibilité de s'occuper de leur quotidien, tant que ce pouvoir central ne va pas arrêter, c'est-à-dire de s'immiscer dans tout ce qui se passe dans cet espace géographique, tant que ces populations ne pourront pas eux-mêmes assurer leur propre sécurité, tant qu'on ne va pas reconnaître cette spécificité à cette entité-là, je pense malheureusement que le chemin de la paix va encore être très très long. Mais tout dépendra du gouvernement malien, tout dépendra des populations qui sont au sud du Mali. C'est à eux de faire des concessions, c'est surtout à eux de prendre conscience de ce que le pays est en train de vivre. Parce qu'aujourd'hui, je pense que les mouvements qui sont avec le gouvernement malien, c'est pas à eux de faire la paix. Mais ceux qui sont contre le Mali, ceux qui se battent contre l'armée malienne, c'est à eux de faire la paix. Et pour qu'ils fassent cette paix-là, il faudra aujourd'hui qu'on reconnaisse une certaine réalité à ces populations et qu'on leur octroie certains droits élémentaires et fondamentaux.
Alors, nous allons débattre de cette dernière partie qui est consacrée aujourd'hui à la sécurité. Alors, au mouvement, le mouvement Gatia a été créé il n'y a pas longtemps. Le MNLA reproche à ce mouvement d'être associé à l'armée malienne pour les combattre sur le terrain. Est-ce qu'il y a une certaine alliance entre le Gatia et les autorités militaires du Mali? Abala Agamzata.
Merci. J'avais voulu répondre à cette question précédemment, mais ça m'a échappé puisque mon frère a évoqué ça dans une des parties. Et ce que j'ai à dire à ce niveau, c'est que les Gatia, il faut remonter un peu dans l'histoire. Les Gatia ont été créés. Tu viens de dire que le Gatia a été créé il n'y a pas longtemps. Et pourquoi le Gatia a été créé? Je pense que ça n'a pas été une création de l'État malien. Il faut que les gens soient clairs dans ce qu'ils disent. Par rapport aux propos, par rapport à la réalité. Le Gatia a été créé suite à la défaite de l'armée malienne à Kidal. Devant l'impasse, devant la situation qui s'impose sur le terrain, il n'y avait plus personne pour sécuriser nos populations. Il n'y avait plus personne, est-ce que vous voyez, pour intervenir. Il n'y avait plus la présence de l'aménagement. Il y avait la présence de l'aménagement et de l'opération Serval à l'époque, qui est devenue Barkhane, mais elles étaient vraiment limitées en matière de sécurité. Et que nos populations étaient séquestrées par les groupes armés, en l'occurrence les MNLA. Je tiens à le préciser. En l'occurrence les MNLA. Donc, on était obligé de s'asseoir et de crier les Gatia.
Donc, il n'y a aucun lien entre le Gatia et les autorités militaires du Mali.
Quel lien? L'État malien pouvait sécuriser cette zone, pourquoi il a replié? Et pourquoi nous sommes à Tabankort? Pourquoi nous sommes à Tarkan? Pourquoi nous sommes à Inafarak aujourd'hui? Les MNLA, c'est là où nos bases sont aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Et je ne sais pas pourquoi, toujours dans les discussions, les gens des MNLA disent que nous, il y a l'État malien derrière nous. Il y a l'État malien derrière nous. L'État malien est derrière nous sur quoi? Je ne vois pas la présence des forces armées maliennes à l'intérieur des Gatia. Je n'ai pas vu un militaire malien à l'intérieur de Gatia. Le Gatia est là jusqu'à la frontière de l'Algérie, tout près ici. Je ne vois pas la présence de l'armée malienne. Et si l'armée malienne était présente, on allait le voir. On allait voir ses drapeaux flotter, on allait le voir. On allait voir l'armée malienne. Hein? Donc, à ce niveau, vraiment, je pense que ce n'est pas un niveau où il doit y avoir des discussions aujourd'hui.
Okay.
Ce qu'on est en train de faire, on est en train de le faire de par nos propres moyens, de par nos propres citoyens, c'est-à-dire les communautés qui composent les Gatia aujourd'hui.
Alors, Moussa Ag Acharatoumane, vous êtes le porte-parole du MNLA. Nous parlons de sécurité. Est-ce que aujourd'hui le MNLA peut dire quels sont les peut identifier clairement les groupes terroristes sur le terrain?
Bon, avant de répondre à votre question, j'aimerais quand même revenir sur c'est ce que Khaybal a dit par rapport au Gatia. Bon, lui-même il l'a très bien illustré. Il faut revenir dans l'histoire pour savoir comment est-ce que le Gatia a été créé. Il a été créé juste après la défaite écrasante de l'armée malienne à Kidal. Et qui l'a créé? Aujourd'hui, on sait tous qui est derrière Gatia, où sont leurs bases. Lui, il en est une preuve illustrante. Il vient de Bamako, il est très proche de la délégation malienne. Il va à Bamako quand il veut, il revient quand il veut. Mais moi, je ne peux pas aller à Bamako quand je veux et revenir quand je veux. Tout le monde sait que moi, j'ai un problème avec le Mali, mais lui, il n'a aucun problème avec le Mali. De l'autre côté aussi, les Gatia cohabitent avec l'armée malienne, c'est une réalité au vu aussi de tout le monde. Moi, c'est une question que j'ai eu à poser à Moussa Mara à Paris, à l'Assemblée nationale là-bas, devant les parlementaires européens. Et lui-même, il a reconnu que l'armée malienne, effectivement, cohabite avec les Gatia. Les Gatia, en réalité, c'est une composante de l'armée malienne. Elle est essentiellement composée des militaires qui ont été défaits à Kidal, comme il a si bien illustré tout à l'heure. Et on sait tous que c'est le général Léji Gamou qui est derrière les Gatia. La preuve, c'est qu'on les voit un peu partout, sensibilisés au nom des Gatia. Moi, j'en ai la preuve, puisque la dernière fois, quand on a fini la deuxième phase du processus d'Alger, moi, j'étais à Tamaracet pour aller faire le compte-rendu aux populations zawadiennes qui étaient là-bas. Le général aussi était presque en même temps que moi là-bas. Et je savais qu'il tenait des réunions, il parlait au nom des Gatia, il sensibilisait les gens à rejoindre les Gatia. Il dit que les Gatia, c'est le mouvement de sa communauté ou de sa tribu.
Ceci étant
donc
dit.
L'alliance.
Ceci étant dit, nous sommes pratiquement à la fin.
Ouais, l'alliance entre les Gatia et l'armée malienne ne souffre d'aucun doute. Aujourd'hui, ils sont à Gao, ils sont ailleurs, ils sont à Bamako et tout ça. Leurs familles vivent là-bas. On sait en réalité qu'ils travaillent pour l'armée malienne. Maintenant, quant à la question, quels sont les groupes terroristes qui sont identifiables sur le terrain? C'est-à-dire les noyaux des groupes terroristes aujourd'hui chez nous, c'est Al-Qaïda au Maghreb islamique.
Savez-vous qui sont là? Où ce noyau
ensuite,
est situé?
Géographiquement. Géographiquement, il se situe dans la région de Kidal, dans la région de Tombouctou. Il y a les Moujaou qui est présent le long de la frontière nigérienne. Et il y a d'autres groupes aussi qui sont à l'intérieur avec lesquels ils ont des connexions, des individus ou des groupements très très réduits à travers lesquels ils agissent. Mais aujourd'hui, je pense que les acteurs qui sont présents sur le terrain, la force Barkhane et les forces de l'AMINUSMA et les MNLA et d'autres mouvements qui combattent ces groupes terroristes-là, on sait tous en réalité là où ils sévissent un peu, mais c'est des gens en réalité qui ne sont jamais visibles, c'est ça le problème. C'est-à-dire, ils agissent dans l'obscurité, ils agissent dans l'ombre, et on ne sait jamais quand est-ce qu'ils peuvent attaquer. C'est ça en réalité qui rend même cette guerre difficile.
Parce que ce débat s'achève, nous sommes pratiquement à 2 minutes de la fin. Un mot pour la paix? Moussa Gacharatouman du MNLA.
Mais moi, je pense qu'il n'y a aucune âme sur cette terre qui ne souhaite pas vivre en paix. Et c'est une aspiration profonde de l'ensemble de ces mouvements-là. Et si demain la paix s'offre à nous, dans laquelle on se voit, on voit les droits élémentaires et fondamentaux de nos populations.
Il reste combien de jours pour faire cette paix?
Je pense qu'on va l'accepter.
Il reste combien de jours pour faire cette paix?
Tout dépend du gouvernement malien. S'ils reconnaissent leurs droits, on fera la paix demain.
Gatia.
Bon, moi, avant de répondre à cette question, je voudrais préciser. Un tout petit peu, ce que Moussa Gachatma vient de dire. Je voudrais lui faire savoir qu'il faudrait qu'il comprenne bien, que la communauté internationale comprenne que c'est vrai qu'à l'intérieur de l'État malien aujourd'hui, la communauté Imrad a une importante, est-ce que tu vois, c'est-à-dire a une importante communauté à l'intérieur des forces armées.
Ce qui est dit, nous sommes à la fin.
Non, je viens. Il faut qu'il comprenne.
Non, c'est fini, hein, nous sommes est-ce à la fin. Oui.
Ensuite, il faut qu'il comprenne ça bien.
Il a déjà compris. Nous sommes à la fin, Abala.
Il n'a pas compris.
Abala, nous sommes à la fin. Il reste une minute. Une minute, nous sommes en direct.
Il reste juste une minute.
Voilà, il reste juste une minute.
Passer un message pour la paix.
Voilà, un message pour la paix.
Pour la paix. Oui. Moi, je suis là vraiment. C'est dans le cadre d'apporter ma petite contribution pour cette paix aujourd'hui. Et je dis, nous avons besoin de cette paix. Est-ce que vous voyez? Normalement, tous les acteurs ici présents doivent se donner la main dans la main. Est-ce que vous voyez? Doivent fournir d'efforts pour construire cette paix aujourd'hui dans le nord du Mali. Et ce n'est pas seulement dans le nord du Mali, c'est dans tous les Mali. Et même les pays voisins en ont besoin. Donc on doit fournir tous nos efforts pour que cette paix, on la réussisse. Et nous pourrons aussi la réussir.
Est-ce Vous êtes confiant.
Inch'Allah.
Nous restons sur ces mots d'espoir. Nous sommes au terme de ce débat réalisé en direct d'Alger. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à nos deux invités, Abala Ag Hamzata du mouvement d'autodéfense Gatia, Moussa Ag Asharatouman, porte-parole du MNLA. Je suis Famoussa Sidibé.
Chargé de communication du MNLA.
Moussa Ag Asharatouman, chargé de communication du MNLA. Ce débat a été réalisé par un duo de techniciens, sinon un collège de techniciens. Depuis Bamako, Bekay Sissé, Peting Diara, Salim Djouara, Nouhoum Diré et Gagny Kanté. Ce débat a été réalisé également par Ousmane Djadje Touré, Moussa avec l'appui constant de Moussa Camara ici à Alger. Il a été présenté par Famoussa Sidibé. Nous vous disons à demain pour un autre débat.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani wa Makaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.